I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et je suis arrivée voir David Cage avec mon book de scénario de jeu de rôle grandeur nature que j'avais écrit. On s'est aperçu que c'était pas du tout un problème résolu, l'absence de diversité dans l'industrie, et qu'au contraire, il y avait probablement des choses plus graves aujourd'hui qu'à nos débuts. Nous, on est persuadés que c'est une femme qui va créer le prochain Minecraft, et on aura peut-être la chance d'arriver à voir qu'elle a Minecraft entre ses mains, parce qu'on va regarder à ses projets différemment, parce qu'on est une équipe différente des autres.
Jeudi prochain, le 3 novembre, lors d'une soirée dans le cadre de l'inauguration de la Paris Games Week 2022, Audrey Le Prince sera décorée de l'ordre de Chevalière des Arts et des Lettres par la ministre de la Culture. Une distinction on ne peut plus méritée pour cette figure du jeu vidéo français qui n'a eu de cesse de faire bouger les choses. En termes créatifs d'abord, en créant avec Aymeric Toa son propre studio indépendant The Game Bakers dès 2010, après avoir bossé sur de grosses prods chez Quantic Dream ou Ubisoft. Depuis, The Game Bakers propose des jeux marquants comme Fury ou plus récemment Haven. En termes de lutte contre les inégalités ensuite, Audrey a cofondé en 2016 Women in Games France, association très active devenue incontournable dans le paysage du jeu vidéo français. Et enfin, de manière plus générale, pour sa volonté de faire bouger les choses à tous les niveaux. Elle a même été jusqu'à monter un fonds de financement Wings pour aider les créatrices et les minorités de genre à concrétiser leurs projets de jeu. Très logiquement, du coup, Audrey Le Prince était tout en haut de la liste des personnalités que je voulais interviewer dans le cadre de cette 16e saison de Silence en Joue. Et c'est bien avant l'annonce de la décoration à venir que j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec elle de son parcours et de ses combats. On va donc écouter ça sans plus tarder. Silence en Joue, Erwan Cario, bonjour. Bonjour Audrey Le Prince, c'est un plaisir déjà de te recevoir dans Silence on Joue. Ça fait longtemps que j'avais envie de te recevoir pour plein de choses. On va parler de toutes tes casquettes qui existent, elles sont nombreuses. Et en fait, j'ai l'impression que pour chacune de tes casquettes, il faudrait un entretien dans Silence on Joue pour en parler en profondeur. Donc j'ai envie aussi de commencer peut-être par ce qui se passe aujourd'hui, avant de revenir un peu sur ton histoire, sur ton parcours. C'est quoi ton dernier coup de cœur dans le jeu vidéo ? Ça peut être aujourd'hui, ça peut être la semaine dernière, ça peut être un jeu, ça peut être un studio, ça peut être une rencontre.
Bah, moi, je suis tombée amoureuse d'un jeu cette année qui s'appelle Strange Horticultist. Un jeu où on joue un horticultiste avec un chat qui aide des villageois. Et j'étais vraiment impressionnée par ce jeu, c'était mon coup de cœur. Pour moi, c'est mon jeu de l'année. À la fois parce que c'était extrêmement bien fait, touchant, intéressant, et aussi par le niveau de qualité qu'une toute petite équipe a réussi à livrer comme ça, de faire des petits jeux qui sont vraiment très, extrêmement bien faits et très différents dans leur approche. Voilà, donc ça c'était mon coup de cœur, et je vous encourage tous à l'essayer d'ailleurs.
Eh ben écoute, on commence par un jeu dont je n'ai pas entendu parler, c'est presque troublant, Strange Horticultist.
Ouais.
On a parlé l'année dernière d'un jeu d'abeilles où il fallait élever des abeilles et les fleurs pas encore, mais on va y arriver. Je vais regarder.
Alors, en même temps, c'est un mystère assez sombre. Hein. Il se passe des choses dans ce village. C'est pas joli. Hein. C'est vraiment une enquête mystère autour de gens qui viennent acheter des plantes dans ta boutique, en fait, dans ton village.
Ah, génial. On va parler de cette force des petites équipes pour créer des grands jeux. Ça va faire partie du thème. J'ai commencé par... On va faire quand même une petite partie bio, parce que peut-être que certaines de nos auditrices et certains de nos auditeurs ne te connaissent pas. Donc, dans la présentation, je l'ai dit, hein, tu es cofondatrice de The Game Baker, tu es cofondatrice de Women in Games, tu es cofondatrice de Wings, le fonds de financement. Je ne sais pas, c'est peut-être pas le bon terme. Mais tu n'as pas commencé par ça. Tu as une longue carrière dans le jeu vidéo. Comment est-ce que tu as débarqué dans le jeu vidéo ? J'ai l'impression que tu as répondu à cette question au moins 1000 fois, mais 1000 et une, ça fera pas de mal. Comment est-ce que tu as commencé à bosser dans le jeu vidéo ?
Oui, et 1000 et une, et je dirais surtout parce que c'est important aussi de montrer, je pense à beaucoup de gens, qu'il y a plein de façons de rentrer dans le jeu vidéo. Donc évidemment, moi, c'était il y a 23 ans, donc c'est un petit peu différent aujourd'hui, mais moi, je suis arrivée dans le jeu vidéo et il n'y avait même pas de formation à l'époque, il n'y avait pas d'école. Je suis arrivée parce que je faisais des scénarios de jeux de rôle grandeur nature que j'écrivais dans mon temps libre. C'était mon dada, le jeu de rôle en général et le jeu de rôle grandeur nature. Et donc, je suis allée avoir Quantic Dream parce que Quantic Dream, ils faisaient, à mon avis, exactement la même chose dans leurs jeux vidéo. Tous ces embranchements scénaristiques en fonction des choix des joueurs. Et je suis arrivée voir David Cage avec mon book de scénarios de jeux de rôle grandeur nature que j'avais écrit. Et évidemment, j'avais aussi rencontré des gens du jeu vidéo qui m'ont fait l'introduction. Bien sûr, ça s'est pas passé comme ça, j'ai pas tapé à la porte. Mais ça m'a donné mon premier job dans l'industrie avec Quantic Dream.
T'avais bossé un petit peu dans le numérique avant, si je ne m'abuse. T'avais bossé sur, même, c'est des choses qui peut-être parlent plus beaucoup aux gens aujourd'hui, mais t'avais bossé dans le CD-ROM, dans le multimédia. On appelait ça le multimédia,
oui,
à l'époque.
Ça, hein. Ouais. J'avais bossé chez Gallimard, qui se lançait dans l'interactif avec le CD-ROM du Petit Prince. Et j'avais bossé à Warner, à Metro-Goldwyn-Mayer, pardon, et à Warner à Paris. Et à la Metro-Goldwyn-Mayer à Londres, là où on faisait carrément des cassettes VHS. Je sais pas si les gens savent encore ce que c'est que des cassettes VHS. Mais voilà, je travaillais sur James Bond et les films de Kubrick.
Oh, trop bien. Mais est-ce que tu étais joueuse à l'époque ?
Oui, moi j'étais joueuse. Hein. Moi j'ai eu le droit d'avoir un ordinateur que quand j'ai eu 18 ans et qu'il fallait vraiment, vraiment m'en payer un pour aller à l'école, à la grande école, à la grande école de commerce à l'époque. Donc avant, j'avais pas trop de consoles de mon côté, on n'était pas une famille de joueurs du tout. Et j'habitais aussi au fin fond de la Beauce, hein, donc dans les plaines de la Beauce, il n'y avait rien autour. Hein. Donc voilà, donc j'avais commencé à jouer quand je suis vraiment allée à Paris avec des amis où j'ai pu accéder aux premières PlayStation, Dreamcast et autres, et à mon PC avec lequel j'ai commencé à jouer. Mais quand je suis allée chez Quantic, c'était que j'avais joué à quelques jeux, mais surtout je voyais vraiment le potentiel de raconter ces histoires vraiment interactives à travers le jeu vidéo.
C'est vraiment la narration qui t'a fait plonger dans le jeu vidéo, en fait. Cette capacité de donner aux joueurs le choix de parcourir une histoire comme ils le veulent.
C'est ça, à la fois le choix et l'implication. Je sais pas si ceux qui ont fait du jeu de rôle et du jeu de rôle grandeur nature le savent mieux que personne, je crois, quand on vit une aventure et qu'on est vraiment dans le personnage, à quel point ça décuple les émotions qu'on ressent, les sensations, la surprise, la peur. Et pour moi, c'est ça la richesse du jeu vidéo, et c'est pour ça que c'est une des meilleures façons de raconter les histoires, de faire vivre des expériences aujourd'hui.
Juste par curiosité, j'ai participé à l'écriture d'un jeu de rôle grandeur nature à la fin de mes études, je crois que c'était en 95 ou ces eaux-là, mais ça s'écrit, toi tu faisais des grands scénarios, parce que je me suis toujours demandé, gérer un scénario de grandeur nature, c'est un truc assez monumental, parce que on rappelle, hein, le jeu de rôle grandeur nature, alors le jeu de rôle classique, tout le monde connaît, c'est autour d'une table, il y a un maître de jeu et il y a six joueurs. Le jeu de rôle grandeur nature, il y a une centaine de joueurs qui débarquent généralement dans une forêt et ou dans un parc ou dans une clairière, et il faut que chacune des 100 personnes qui sont présentes vivent une aventure, en fait. C'est un peu ça le challenge.
Ouais, non, c'est sûr que c'est d'une complexité incroyable, et souvent ça se passe d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on définit un arc narratif global, une histoire globale pour tous les personnages, et ensuite chacun des organisateurs va vraiment s'occuper en détail d'un groupe de joueurs pour lesquels il va lui écrire des arcs narratifs plus précis, avec des rencontres avec des PNJ et potentiellement d'autres groupes de joueurs. Mais c'est vrai qu'on est obligé, en fait, chacun de travailler sur un nombre réduit de joueurs, sinon On arrive à des niveaux de complexité incroyables.
C'est presque une généalogie assez naturelle quand on part de ces scénarios complexes avec des possibilités d'interactivité, parce qu'il faut aussi prendre en compte que le joueur fait n'importe quoi, que ce soit un joueur de grandeur nature ou un joueur de jeu vidéo. Finalement, le côté le joueur fait n'importe quoi, il faut aussi le prendre en compte. Et donc, c'est toutes ces contraintes qui sont assez logiques.
Et c'est pour ça aussi que ça marchait particulièrement bien, je pense, avec Quantic. Quoi. C'est vraiment le DNA de Quantic et maintenant, ils sont connus pour ça. Quoi. C'est ceux qui poussent le plus loin cette notion de choix, je trouve, dans les jeux, en tout cas dans les AAA.
Et alors chez Quantic, sur quoi tu as, c'était quoi ton travail ?
Chez Quantic, moi je suis arrivée game designer, un peu à titre fourre-tout, avec une contribution à l'écriture, à du level design. Je travaillais sur Omicron, le premier jeu de Quantic, Omicron Nomad Soul, avec la bande son composée par David Bowie qui est venu dans les bureaux et tout. C'était la classe. Wow. Donc j'ai fait tout, du level design, des quêtes, la localisation, enfin c'était vraiment à l'époque, je sais pas, on était peut-être 30, même pas, donc il y avait beaucoup de choses à faire à tous les niveaux.
Aujourd'hui, game designer, c'est un métier. Enfin, c'est un métier, je veux dire, c'était déjà un métier à l'époque, mais aujourd'hui, il y a des formations, il y a une fiche métier de game designer. Là, tu me dis, tu faisais du son, du level design, de l'écriture et tout ça, et on appelait ça game designer à l'époque. Aujourd'hui, c'est un truc très très précis, game designer. T'en penses quoi de cette spécialisation ?
Non, j'en pense que c'est très bien qu'on ait des gens qui ont vraiment une compréhension profonde des mécaniques de gameplay, de jeu, de la façon dont on fait progresser les joueurs, dont on les récompense. Ça, je pense que c'est ce qui a contribué aussi à l'explosion de qualité de notre média sur les 20 dernières années. Heureusement que je suis pas game designer sur les jeux qu'on fait à Game Bakers. Ça, je te garantis, parce que ce serait beaucoup moins bien que ce que fait l'équipe.
T'es resté à Quantic jusqu'au début des années 2000, et après, c'est expatriation, déjà, à l'époque.
Ouais, j'avais cette idée folle de vivre en Chine, de partir en Chine. J'étais amoureuse, passionnée de la culture chinoise. J'avais appris le chinois à l'école. Et du coup, je cherchais un studio qui pouvait m'envoyer en Chine. Donc, je suis passée par une petite boîte qui s'appelait Maza, qui devait ouvrir à Hong Kong. Et puis, au final, ça s'est pas fait. Alors, j'ai essayé de trouver un boulot directement là-bas. Et Ubisoft Shanghai recrutait beaucoup à l'époque. Donc, je suis arrivée en 2003 à Shanghai.
T'es resté combien de temps là-bas ?
Je suis restée 7 ans à Shanghai, Ubisoft. Donc, j'ai d'abord commencé à aider sur des portages de gros AAA, donc des Tom Clancy, notamment Tom Clancy Rainbow Six sur PlayStation, un des premiers PlayStation multiplayer. J'étais spécialisée dans le multiplayer, dans les tâches difficiles comme ça. J'ai aidé sur Brothers in Arms aussi, un ou deux. Et puis après, on a fait à Shanghai la première création d'IP du studio. Donc on a fait une IP originale dans la marque Tom Clancy qui s'appelait Noir, qui était un RTS que l'on pouvait jouer sur console. Donc très ambitieux, très en avance, parce que le RTS, c'est vrai que ça se pratiquait beaucoup sur PC, mais beaucoup moins sur console.
Toujours aujourd'hui.
On a fait venir une équipe incroyable à travers le monde, et on a travaillé avec les équipes locales pour faire ce jeu qui est sorti en 2009 ou 2008.
Et donc, après Ubisoft, j'ai cru comprendre que c'est là où tu t'es dit peut-être qu'il va falloir que je fasse les choses par moi-même.
Ouais, bah c'est sûr que Ubisoft et Quantic aussi, dans une moindre mesure, c'était vraiment des écoles extraordinaires de travailler sur des productions. Moi, j'étais devenue productrice à l'époque, donc j'étais productrice sur des équipes de AAA avec 200 personnes sur le plateau et bien plus qui travaillaient autour du monde pour les projets de jeux sur lesquels on bossait pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans. Et c'est sûr que ça a été extraordinaire et c'est des années fantastiques. Mais ça m'a aussi fait toucher du doigt les limites de ces tailles d'équipes un petit peu extraordinaires, massives, et à quel point les gens peuvent facilement d'un seul coup se désintéresser, se démotiver, se distancier du métier qu'ils font et du produit final, du jeu final. Et ça, c'est vrai que c'était le plus difficile à accepter. Et aussi, je crois que ça, c'est une caractéristique que j'ai aussi bien que Aymeric Toa, le cofondateur de Game Baker. C'était de plus en plus difficile d'accepter des décisions, alors que moi aussi j'avais l'impression de savoir ce qu'il fallait faire, et donc du coup je me suis dit on n'a qu'à le faire nous-mêmes. Mais à notre enfin c'était pas juste comme ça, on a le courage de se lancer. C'était aussi l'époque 2010 où il y a, bon, déjà Steam avait ouvert la porte énormément à la création indépendante, et puis ensuite l'App Store s'était lancé. Donc une deuxième porte grande ouverte pour faire des jeux et les publier soi-même sans devoir nécessairement être approuvé par PlayStation, approuvé par Nintendo pour pouvoir faire avoir une chance de faire un jeu. Donc c'était un moment aussi où c'était possible de monter des studios indés. Et voilà, c'est pour ça qu'on s'est lancé aussi.
Et c'est aussi, il y a eu les premiers grands précurseurs de l'indé. On pense à Braid, enfin les premiers Xbox Summer of Arcade qui avait vu arriver Limbo, Braid, enfin les premiers grands jeux indés qui pouvaient un peu grappiller les coups de projecteur aux gros jeux, en fait. C'est-à-dire que et la presse et les joueurs pouvaient se dire, tiens, il y a des jeux qui sont pas faits par des énormes studios, qui proposent en plus des concepts originaux et qui ont du succès. Finalement, c'était le début du grand chemin des créateurs indépendants à cette époque.
Absolument, et c'est vraiment toujours extrêmement intéressant de voir à quel point c'est des ruptures technologiques qui ont créé ça. C'est quand Steam a dit, bah nous on va mettre les jeux là et vous allez pouvoir juste nous les proposer et on va les publier, et que l'App Store a fait pareil, et que d'un seul coup le contrôle des gros éditeurs ou des first party, Microsoft, Sony, Nintendo, a été voilà, il y a eu un contre-pouvoir, en fait. On pouvait sortir des jeux malgré eux, quoi.
The Game Baker, on est en 2010 à peu près, créé là pour le coup. Après on a, c'est un grand mouvement, on a moi de mémoire la grande première vague des jeux indés, là on a parlé de Braid ou Limbo, mais qui était vraiment ultra précurseur. Et les premières grandes vagues, c'était plutôt 2012. Comment ça se passe quand tu veux créer une structure indé en 2010 ? Personne ne sait ce que c'est. Vous êtes que deux ou quelques-uns pour créer un studio de jeux vidéo, ça n'existe pas. Enfin, je pense que pour convaincre des gens, ne serait-ce que financièrement, c'est pas facile.
Alors oui, c'est pas facile, mais il faut quand même dire que déjà à l'époque, on avait des soutiens incroyables, notamment le rôle du CNC, hein, qui fournit notamment le FAJV, le Fonds d'aide aux jeux vidéo, et bon, dans une moindre mesure, le crédit d'impôt aux jeux vidéo, puisque pour en bénéficier, il faut avoir quand même des productions d'une certaine taille, ce qui n'était pas notre cas à l'époque. Et ce qui nous a aidé aussi, c'est que on savait ce qu'on faisait, on n'arrivait pas dans le secteur fraîchement sorti d'une école d'art ou d'autres choses. On avait déjà 10 ans de carrière dans l'industrie avec tous les contacts, toute la connaissance. Et ça nous a permis d'avoir une idée assez claire de ce qu'on allait faire. Et après, pour le financer, ça a été autre chose. Et on a dû faire une levée de fonds de ce qu'on appelle de love money à l'époque. Donc, aller chercher auprès de notre famille et de nos amis. C'était vraiment notre famille et nos amis. 100 000 euros pour financer la moitié de notre premier jeu, Squid, qui était aussi financé avec le CNC, puis après avec des différents partenariats en bizdev qu'on avait pu trouver, sachant que nous, on avait décidé de produire et de distribuer nous-mêmes. On avait vraiment envie d'avoir cette relation directe, donc pas de publisher, pas d'éditeur. On faisait tout nous-mêmes. Donc c'est vrai que ça n'aide pas pour trouver de l'argent pour faire un jeu quand on a décidé de tout faire soi-même.
Vous commencez donc sur le mobile. À l'époque, c'était, bah, tu l'as dit, c'est l'App Store venait d'éclore. C'était encore un territoire à conquérir, un territoire en friche. Enfin, il n'y avait vraiment pas de modèle non plus. Hein. On ne savait pas trop c'est quoi. D'ailleurs, il n'y avait pas encore vraiment de free-to-play. Il fallait encore payer, ne serait-ce qu'un peu, pour ces jeux vidéo. Et ça marche pour vous, ces débuts-là ? Ça fonctionne ?
Alors, bon, déjà, nous, on était allés directement sur mobile aussi parce qu'on voulait faire un jeu avec un plus petit budget. Tu vois, quand je dis c'était 200 000 euros, Squid, c'est des petits budgets. Comparé même au AAA de l'époque, hein, qui se chiffrait en dizaines de millions d'euros déjà à l'époque. Donc, pour nous, c'était aussi nécessaire d'aller quelque part où on allait pouvoir produire un jeu de qualité sans avoir trop de risques financiers et trop de difficultés pour le financer. Donc, c'est pour ça qu'on était allé sur l'App Store. Et on s'était vraiment dit, avec naïveté, une fraîcheur que je pense malheureusement on n'a pas perdu à Game Bakers, malheureusement ou heureusement d'ailleurs, je ne sais pas.
Heureusement, ouais, heureusement.
Peut-être qu'on allait apporter à tous ces joueurs sur mobile qui à l'époque, je vous le rappelle, ils jouaient à Angry Bird ou ils jouaient à Fruit Ninja, c'était vraiment ça. On allait leur apporter enfin des jeux avec de la profondeur de gameplay, avec de la qualité d'exécution, un peu comme les jeux Nintendo de l'époque, mais sur mobile, c'était notre idée. Je pense qu'on a réussi à livrer notre objectif, puisque Squid a été un grand succès critique, hein, avec beaucoup de top de l'App Store dans beaucoup de pays à l'époque, des très bonnes notes, des prix gagnés, etc. Sauf qu'on s'est aperçu qu'effectivement, le marché n'était pas vraiment là pour ça, et d'ailleurs de moins en moins, et au fil des années, le freemium est arrivé et a complètement bouleversé notre écosystème, à tel point qu'on faisait des jeux de meilleur en meilleur, que ce soit Squid's Wild West qui était encore meilleur que Squid's, qui a eu encore meilleure note, qui a été dans les 10 meilleurs jeux métacritiques de l'année sur mobile, bref. Et ben, on en vendait de moins en moins, donc ça, ouais. ça marchouillait, on arrivait à rentabiliser nos productions, mais on voyait bien qu'on allait droit dans un mur.
Et du coup, vous avez décidé de vous lancer dans le jeu PC, qui n'est pas forcément le truc le plus accessible non plus, et en plus par une production absolument qui est magistrale de fait, une fois qu'elle est finie, une fois qu'on y joue, mais les choix à l'origine de ce Fury sont assez incroyables en fait. Enfin, moi j'ai encore des souvenirs douloureux de mon tutoriel, si on peut appeler ça comme ça, du tutoriel de Fury, où on se dit... Mais laisse-moi passer, monsieur, ce gardien de prison. En fait, on voit, dès qu'on voit Fury, on voit, OK, il y a une idée, il y a un concept, il y a une envie, il y a quelque chose qui est là que j'ai jamais vu avant et qui est intéressant. Mais il faut quand même... il faut pas avoir peur pour se lancer dans un truc comme ça.
Oui, c'est sûr, mais en même temps, quand, rétrospectivement, je me dis que Fury était moins risqué que Heaven, tu vois, donc on pourra peut-être en parler un peu plus tard, mais c'est sûr que Fury, déjà, c'était console et PC pour nous, on est quand même de cœur un studio console, et d'ailleurs, on a encore du mal aujourd'hui à vraiment faire des jeux Steam, des jeux dans l'esprit Steam, c'est pas ce qu'on sait faire, nous, on fait des jeux qui se jouent avec une manette, qui se jouent installés devant un grand écran, avec un son qui déchire, si possible. Enfin voilà, on est vraiment un studio console dans l'âme, même si c'est vrai que nos jeux, ils sont aussi très bien sur PC, puisque la différence entre un PC et une console s'amenuise, je dirais, de jour en jour. Donc on s'est lancé sur ça, et ce qui était d'ailleurs notre cœur de l'endroit où on jouait. Nous, on n'était pas des joueurs mobiles, on était des joueurs console. C'est la vérité, tout le monde dans le studio était comme ça. Et c'était très naturel, d'ailleurs on venait de 10 ans de AAA console, Emric et moi. Et cette idée de Fury, c'était une idée qu'Emric avait depuis 10 ans en tête de faire un jeu avec que des boss fights. Un jeu avec que des boss fights. Et c'est vrai que c'était une idée géniale, et il me l'a raconté, et moi j'ai tout de suite vu que c'était une idée géniale. Et c'est sûr qu'on a trouvé après, je dirais, une bonne méthode pour la réaliser, en essayant de rester... à la fois par nécessité, parce qu'on avait peu de moyens, et à la fois par décision créative forte, et ça, faut vraiment lui rendre tout son crédit pour ça, à Emric Toa, de vraiment se focusser uniquement sur cette expérience de jeu de boss fight, et d'aller chercher tout ce qui allait pouvoir la renforcer, que ce soit le character design de fou de Takeshi Okazaki, qui avait fait Afro Samurai, que ce soit la musique électro composée par des gens qu'on adorait et composée pour le jeu, avec chaque boss pensé individuellement pour construire ses phases de tension et puis après de défoulement, que ce soit le scénario avec toutes ses raisons de se battre et les moments de surprise qu'il y a dans le jeu aussi. Voilà, donc après on a tout construit, on a eu la chance que ça colle ensemble et que ça fasse cette belle expérience qu'est Fury, quoi.
Et... Alors c'est marrant parce que tu dis c'était moins risqué que Haven en fait, parce que c'est pourquoi, parce que en fait ça s'adressait à une population qui est très identifiée.
Absolument, ça reste
les gens qui ont
un jeu de combat, boss fight, hack and slash, tu peux mettre un nom dessus, les gens savent ce que c'est. Tu vas prendre un dual stick shooter et puis tu vas faire du combat rapproché, et ça s'inscrit dans un genre où il y a d'ailleurs eu beaucoup de succès. Que tu regardes le dernier Se Fou, là, des Français Absolver, de Slow Clap, Absolver c'est leur jeu précédent, ou que ce soit, il y en a quelques-uns quoi, je les ai pas tous en tête, mais c'est un genre où il y a eu beaucoup de succès assez identifiés, même dans la lignée des jeux japonais qu'on connaît tous, que ce soit le dernier Elden Ring ou ceux d'avant, mais il y a quand même une culture de ces jeux difficiles, hack and slash, combat, voilà.
Alors là-dessus, on arrive à ce moment dans ta carrière où je ne sais pas si on va continuer sur... On va peut-être faire justement le petit détour, parce qu'on pourrait parler de Haven, dont on avait longuement parlé dans Silence on joue à sa sortie. Mais j'ai lu, alors après, c'est peut-être que tu vas raconter une autre version, mais que... Il y a quand même quelque chose, c'est que Fury, dont on vient de parler, a reçu des prix, parce que ça a été vraiment, il y a eu une vraie reconnaissance critique et il y a eu un vrai impact de Fury. Et tu t'es rendu compte, enfin je pense que tu t'en doutais, mais en tout cas il y a quelque chose qui t'a choqué d'avoir des prix et que tu sois soit la seule, soit il y ait très peu de femmes lauréates en même temps que toi.
Non, c'est sûr que ça a été le déclencheur de mon implication et de la création de Women in Games France. Avec Julie Chalmette, donc la directrice générale de Bethesda et la présidente du CEL, avec qui on est amies depuis Gallimard d'ailleurs, donc depuis plus de 20 ans. On était dans la salle toutes les deux, et moi je suis montée sur scène pour recevoir le prix pour la meilleure bande-son, pour Fury, et elle est montée sur scène pour recevoir un prix pour Arcane. Et en fait, on était les deux seules femmes sur scène, en dehors de la présentatrice. Et là, on s'est dit, mais non, c'est pas possible, on est des vieilles, en fait, c'est nous qui nous rendons pas compte, mais ça va beaucoup mieux dans l'industrie qu'il y a 20 ans, et en fait, on a passé l'année, quelques mois suivants, à parler. Moi, j'ai fait le tour du monde pour Fury, et j'ai parlé à tout le monde, et on s'est aperçu que c'était pas du tout un problème résolu, l'absence de diversité dans l'industrie, et qu'au contraire, il y avait probablement des choses plus graves aujourd'hui qu'à nos débuts. Il y a 20 ans, elle et moi, et du coup, on a décidé de monter Women in Games France pour essayer d'agir au moins à l'échelle française pour faire avancer les choses, les mentalités en général.
Women in Games France, parce que Women in Games, c'est une association qui existait déjà. Il y avait déjà une présence internationale du même genre.
Voilà, on n'a pas du tout inventé la roue, hein. Il y a Women in Games, il y en avait déjà, il y avait des Women in Gaming, il y avait des Diversi et autres associations à travers le monde entier qui s'inscrivaient dans la même défense de la diversité, en particulier des femmes au sein de l'industrie. Et du coup, on l'a appelé Women in Games parce que ça nous semblait évident, et puis aussi qu'on s'est inspiré de leurs actions et qu'on travaillait avec d'autres associations européennes, donc c'était simple.
2016, il y a effectivement peu de femmes lauréates à des postes clés. Enfin, parce que c'est ça aussi, c'est pour monter sur scène et récupérer un prix, il faut être à un poste clé dans un studio. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes dans les studios, mais en tout cas, il n'y a pas de femmes qui montent sur scène récupérer le prix sur un jeu. 2016, c'est aussi une période, charnière sur ce sujet-là. C'est le Gamergate, c'est les créatrices de jeux qui se font harceler, menaces de mort, menaces de viol, harcèlement sur les réseaux sociaux et ce genre de choses. C'est aussi quelque chose qui t'a troublé, c'est quelque chose qui pousse aussi à se dire il faut faire quelque chose. Enfin, on est obligé de faire quelque chose.
Absolument, absolument. Anita Sarkisian, c'est une amie et une grande inspiration pour moi aussi. Je pense qu'elle a été une des premières à mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et en analysant les médias en général et le jeu vidéo pour dénoncer justement tous ces stéréotypes de genre en particulier. Et ce qui lui est arrivé à elle et la façon dont elle l'en a parlé et dont elle a elle aussi pris son bâton de pèlerin pour aller arpenter le monde et essayer de faire changer les mentalités, c'était marquant, et je pense que c'est un effort global de toutes les femmes de l'industrie du jeu vidéo depuis ces dernières années, depuis 5 ans ou je sais pas combien d'années exactement, mais c'est clair que c'est un mouvement de fond qui, je trouve, porte ses fruits, et on voit des améliorations constante, même s'il reste encore beaucoup de choses à faire, ça avance d'une façon qui est globalement positive.
Je reviens, parce que c'est vrai que moi, il y a cette année 2015, 2016, enfin, qui sont des années d'une part particulièrement violente. Je trouve aussi qu'il y avait quelque chose dans cette violence, dans, que ce soit ce que tu as raconté sur cette absence de femmes, c'est de se dire, merde, on est en 2016 à l'époque. On n'est pas, pas en 1954, on n'est pas... Enfin, on est censé avoir un peu progressé. Et je pense qu'il y avait, vraiment un truc assez violent, surtout dans le milieu du jeu vidéo, de regarder avec, de regarder de manière objective et les productions. Il fallait voir les productions et la présence de femmes en tant que personnage principal, les représentations dans les jeux vidéo. Et en termes de... De création et aussi déjà en termes de sur les joueuses, enfin ça c'est pas récent sur les joueuses, hein, le fait de le gatekeeping sur les joueuses, le fait d'empêcher les joueuses de participer au discours autour du jeu vidéo et tout ça, mais j'ai l'impression que voilà, il y a eu en 2015-2016, que ce soit avec la création de Women in Games, que ce soit avec les conséquences du Gamergate et tout ça, il y a eu comme ça un basculement qui s'est fait dans la violence quand même, notamment, mais qui s'est dit bah il faut faire avancer les choses plus vite en fait. J'ai l'impression qu'il y a ce côté-là aussi chez Women in Games. C'est ok, ça va avancer, mais il faut avancer plus vite. Il faut aller plus vite.
C'est clair que Women in Games, on l'a construite pour qu'elle soit vraiment dans l'action. C'est-à-dire qu'on n'était pas là pour faire des discours, on était là pour aller travailler avec les gens, pour changer les mentalités, pour équiper les femmes, pour se défendre. Pour équiper les femmes pour mieux négocier leur salaire, aller pitcher, pour leur donner des financements, pour monter des équipes e-sport. Et puis après, tout un travail de fond avec l'industrie, en leur disant que c'était plus possible que ça se passe comme ça, et qu'il fallait qu'ils se prennent en main. Et là, on a vu des soutiens très importants, comme le CNC et en général le gouvernement, qui nous ont permis de mettre en place des législations qui vont dans le bon sens, et qui est maintenant... font qu'il est nécessaire pour n'importe qui évolue dans cette industrie d'être formé et sensibilisé à des problématiques de diversité, d'harcèlement, etc.
Tu parles là notamment d'une règle qui a été inscrite notamment sur le FAJV, le Fonds d'aide aux jeux vidéo, c'est qu'il doit y avoir aujourd'hui, pour prétendre obtenir une aide du CNC, il faut... il faut suivre une formation sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et contre le sexisme en entreprise, c'est ça.
C'est ça, exactement. Et c'est tout un tas de supports qu'on a trouvé, hein, que ce soit en particulier le CEL qui nous a extrêmement soutenus au début. Donc le CEL, c'est Syndicat des loisirs de l'industrie, qui nous a soutenus pour faire porter ce message, notamment à la Paris Game Week, parce que notre combat, c'est aussi pour faire venir plus de femmes dans l'industrie, pour que toutes ces jeunes filles qui adorent jouer aux jeux vidéo ne se disent pas « bah non, c'est pas pour moi, parce que c'est un truc de mec, et de toute façon, mes parents ne comprennent pas ce que c'est que le jeu vidéo, donc laisse tomber, je vais aller faire médecine ». Bah non, qu'on les invite à venir et qu'elles voient que l'industrie est là pour les accueillir. Donc ça, c'était un énorme relais, le CEL. Et puis après, je crois qu'il y a eu beaucoup d'acteurs qui ont aussi fait... d'entreprises, hein, qui ont fait un travail de fond pour changer pour résoudre ces problèmes, améliorer la diversité en général dans les équipes de production.
Au moment où ça s'est créé, donc en 2016, ça faisait un peu plus d'une quinzaine d'années que tu étais dans l'industrie. Donc évidemment, beaucoup d'expérience, que ce soit dans la production de jeux et la gestion d'équipe et tout ça, mais le militantisme, d'une certaine manière, enfin, comment est-ce qu'on se lance dans un truc Women in Games France? On est cofondatrice de Women in Games France. Il faut faire un bilan, il faut récupérer des chiffres, tu débarques comme ça avec une volonté, et une vraie volonté de faire changer et d'accélérer les choses, mais en même temps, il y a un moment où tu t'es en bas de la montagne et tu regardes le sommet et tu fais « waouh, il va falloir marcher quand même ».
C'est sûr, mais le truc que j'ai appris avec le militantisme, c'est qu'on n'a jamais fini en fait, on est toujours en train d'apprendre et découvrir de nouveaux points de vue, et je pense que c'est aussi... un état d'esprit, hein, le militantisme, c'est de constamment chercher à s'améliorer, à améliorer le monde autour de soi. Et du coup, on a toujours... j'aurais pu être paralysée par le fait que j'y connaissais rien, que je savais même pas que j'étais féministe quand j'étais plus jeune. C'était pas du tout des notions dans lesquelles j'ai grandi. J'avais pas d'amis plus féministes que moi. Enfin, ou alors j'en avais, mais je leur parlais pas, ou je savais même pas de ce que c'était que tout ça. J'aurais pu m'arrêter en me disant « mais j'y connais rien, je vais rien faire ». Ce qui était très tentant d'ailleurs, parce que j'aurais aimé qu'il y ait des femmes plus jeunes qui s'emparent du sujet et qui le poussent. Mais on s'est aussi rendu compte qu'il fallait qu'on ait un certain niveau de protection, de carapace pour avancer comme ça dans l'industrie que Julie et moi on avait, parce que justement on avait 20 ans de carrière et que on était, moi je suis indépendante, personne peut m'enlever un contrat et ça va pas me couler ma boîte. Elle aussi, elle a suffisamment de confiance et que du coup c'est nous qui pouvions avancer et se prendre des coups ou au moins se prendre des conversations difficiles sans les craindre. Et ça nous a, je pense que c'est ça qui nous a motivé à le faire. Après, l'association, elle a grandi et il y a énormément d'énergie qui sont venues de tous les niveaux, de tous les âges, de tous les niveaux d'expérience, et ça c'est très riche. Mais voilà, c'est ça qui nous a motivé, le fait de savoir que c'était pas grave, on n'y connaissait rien, mais on allait apprendre sur le tas et faire des actions très concrètes, ce qui nous ont aussi évité de nous perdre dans des débats qui peuvent être parfois très chronophages, dans tout type de militantisme d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de façons d'aborder des sujets.
Comment ça se met en place, une asso comme Women in Game France ? Parce que la mission, elle est, en tout cas, elle se résume assez vite, c'est promouvoir la place des femmes dans le jeu vidéo, faire en sorte qu'il y ait plus de jeunes filles, de jeunes femmes qui se lancent dans la carrière, faire en sorte qu'il y ait peut-être moins d'inégalités, aussi aborder le problème des violences sexistes et sexuelles, on va en reparler aussi, mais il y a un cahier des charges qui semble assez massif. Comment est-ce qu'on monte ça, cette aventure-là ?
Bah, malheureusement, l'associatif, c'est vraiment, je crois, le plus difficile, hein, pour avoir géré des entreprises et des associations. Maintenant, des équipes projet, je peux vous dire que l'associatif, c'est le plus dur parce que ce sont des gens qui ont déjà un métier, une vie de famille, des loisirs, et qui vont, en plus de ça, sur leur temps libre, la nuit, le week-end, donner leur temps de travail en étant non rémunérés et en étant juste motivés par la cause. Donc ça fait que c'est le plus difficile de gérer les associations, c'est ce qui va le moins vite. C'est des espèces de ventre mou, très fragiles. Et je pense que ce qui nous a donné l'avantage, c'est qu'on avait une petite équipe qui faisait tout elle-même. Et bim, 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 il n'y avait pas, il faut faire un site web, on le fait. Bah, il faut faire une action, bah, on le fait. Et voilà. Et c'est ça qui, d'un seul coup, on est arrivé et on a posé une dizaine d'actions clés et qui ont fait qu'on était tout de suite soutenus. Les gens ont vu que c'était utile et que ça servait à quelque chose. On a eu à la fois beaucoup de bénévoles, on a plus de 2500 ou 3000 membres maintenant, et aussi des acteurs importants qui nous ont soutenus avec des financements, que ce soit les membres du CEL, que ce soit des entreprises privées, Ubisoft, etc., qui ont participé pour qu'on puisse justement commencer à rémunérer un peu des membres, à payer des présences sur des salons, à faire intervenir des experts, voilà. Donc ça nous a permis d'avancer. Mais en gros, il faut juste abattre tout le travail qu'il y a à faire pour que ça avance. Et une fois que c'est lancé, ça va un peu mieux.
Forcément, quand tu lances un truc comme Women in Games, tu nous as parlé un peu du déclic qu'il y a eu courant 2016 avec le fait de se sentir un peu seul au féminin sur des scènes, etc. Mais on sait aussi voilà, que tu avais quelques années de carrière derrière toi. En tant que femme dans le jeu vidéo, toi, est-ce que c'est aussi issu d'une propre expérience personnelle, d'un vécu au sein des studios ? Forcément, je suis obligé de parler d'Ubisoft Shanghai où tu as passé 7 ans. Il y a des noms hein, qui sont sortis, différentes affaires de responsables, notamment à Ubisoft Shanghai et ailleurs, qui sont sortis. Est-ce que c'est quelque chose que toi, t'as vécu cette situation-là ?
Moi, j'ai pas vécu d'affrontements ou de conflits forts, comme malheureusement certains d'entre nous ont pu le vivre. Mais je crois, comme toutes les femmes de l'industrie et potentiellement toutes les femmes de notre génération, on a juste appris à se comporter différemment, ce qui est extrêmement insidieux, en fait. Et je remarque de plus en plus, en comparant notre façon d'être par rapport à des collègues masculins, il y a des traits qu'on retrouve chez beaucoup de femmes qui se disent « Oh là là, moi j'ai pas le niveau pour ce poste, tu rigoles, ça peut pas être moi », alors qu'un collègue va dire « Mais oui, bien sûr, je peux y aller », que ce soit autour simplement d'une prise de parole, autour d'une table, le niveau d'attention qui est donné à chaque interlocuteur, ou quand on rentre dans une pièce, et ça je l'expérimente encore aujourd'hui, quand je rentre dans une pièce avec des collègues masculins, c'est pas forcément à moi qu'on va dire bonjour en premier. Et on peut plus dire que c'est parce que je suis la petite jeune, parce que c'est même plus vrai. Donc il y a plus d'excuses, en fait. Voilà, donc c'est constamment une espèce de relégation au second plan, une espèce de de double effort, double standard qui est demandé à une femme qui doit faire attention à pas être trop agressive, hein. Attention, hein, quand on est passionné, il faut pas trop bouger les bras, sinon on va nous traiter d'hystérique. Donc je force un petit peu le trait, mais je pense que c'est très global et c'est très pernicieux et il faut que ça cesse. C'est important que chacun puisse donner l'essentiel, tout son potentiel, sans devoir constamment se contrôler, se vérifier et craindre de ne pas être entendu ou au contraire d'être réduit au silence.
Sur la période depuis 2016, depuis on va dire 2018 si on prend les premières grosses affaires et puis plus récemment aussi, il y a eu quand même, que ce soit autour du crunch ou que ce soit autour des violences sexistes et sexuelles, que ce soit chez des studios comme Rockstar, Ubisoft ou d'autres, il y a eu comme ça beaucoup d'affaires sur les conditions de travail, de scandales. Encore aujourd'hui, je crois qu'il y a quelque chose qui est sorti hier ou avant-hier, des nouveaux sujets autour de Activision Blizzard. On a, enfin, franchement, on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup de toxicité qui est liée à cette industrie du jeu vidéo. Alors, on ne sait pas comment, il n'y a pas un lien direct qui vient... vous avez un écran, des manettes et des consoles de jeux, donc l'industrie qui va créer ça est une industrie toxique. Il n'y a pas un lien de causalité direct, mais on a l'impression qu'il y a quand même quelque chose d'essence, enfin, pas, presque par essence, enfin, on a l'impression que cette industrie est un peu malade, en fait, aujourd'hui. Encore aujourd'hui.
C'est pas notre industrie qui est malade, je pense que c'est la société qui est malade, qui est profondément malade et inégalitaire. Et le fait est que je pense que tu peux regarder n'importe quelle industrie où tu as une surpopulation, une domination d'un certain type de personnes, 80% d'hommes blancs de 25 ans qui ont fait les mêmes études. Et que tu regardes comme ça, quand tu as des équipes avec des surpopulations, des populations qui dominent complètement le paysage, tu vas avoir de la toxicité, tu vas avoir des problèmes dans les équipes. Ça, c'est prouvé maintenant, et je crois que c'est vraiment le cas du jeu vidéo. C'est ça le problème du jeu vidéo, c'est que ce sont des équipes d'hommes blancs, jeunes, qui, ou plus ou moins jeunes d'ailleurs, qui les composent essentiellement à hauteur de 75%. Donc c'est ça la difficulté à laquelle on est confronté. Et quand on dit 75%, évidemment, on a compté, hein, les gens qui sont à la com, au marketing, aux ressources humaines, au légal, à la réception, etc. Et pas forcément, bien sûr, les gens qui sont les décideurs et les managers. Parce que là, si on monte un petit peu dans les niveaux de l'entreprise, on va vite voir que ça passe très clairement en dessous de la barre des 10% ou des 5%. On peut parler des entrepreneuses en France. Combien de pourcents de femmes à la tête de studios en France? Je pense que toi et moi, on en connaît 5 ou 10 peut-être, voilà. Donc sur 3000 entreprises, c'est vraiment la société qui est malade, la société patriarcale, et le fait que, comme c'est un loisir qui est devenu genré depuis les années 80, depuis ces mauvaises décisions des marketeurs américains ou je ne sais pas d'où, qui ont d'un seul coup décidé qu'on allait mettre le jeu vidéo dans le rayon des petits garçons, ça a fait un effet boule de neige, et on est encore en train de s'en remettre, tant qu'on n'aura pas de la diversité dans les équipes créatives et des femmes dans les équipes créatives qui font changer les contenus, qui font changer la perception, la représentation des femmes et en général le fonctionnement des équipes, ça va nous coller à la peau. Mais c'est quand même de mieux en mieux. On était à 15% quand j'ai commencé Women in Games. Là, je crois qu'on est à 25%, 27%, ça dépend un petit peu des statistiques.
Ah ouais, on est... oui, c'est statistiquement assez impressionnant quand même, cette progression.
Alors après, ça progresse. Hein. Je ne sais pas si ça progresse vraiment aussi vite que ça, mais ça progresse, ça c'est vraiment important. Et je crois que c'est un effet de génération. Je pense que c'est évident, je vois les enfants d'aujourd'hui, les petites filles jouent autant que les petits garçons, jusqu'à ce que, évidemment... La société les happe et leur tape sur les mains en leur disant va plutôt je sais pas d'ailleurs faire quoi, mais en tout cas pas jouer au jeu,
arrête de jouer,
voilà, arrête de jouer, fais autre chose de ton temps. Mais ouais, donc je pense que c'est aussi un problème de génération. Les générations qui viennent, c'est quand même beaucoup plus équilibré. La culture jeu vidéo est vraiment imprégnée chez les jeunes filles et les petites filles autant que chez les petits garçons.
Il y a cette impression, alors je sais pas si c'est la date, le compte Twitter a été créé, j'ai pas retrouvé la date, le compte Twitter a été créé en 2018, C'est la création de Wings. Donc, il y avait Women in Games, que c'est assez... Je sais pas si c'est lié, mais dont l'acronyme est WIG. Mais on rajoute un N et on a des L. Et donc tu crées... tu cofondes, encore une fois, ce fonds d'aide à la création pour les studios. Alors... Si, je pense qu'il faut être clair comme ça, c'est les studios gérés par des femmes et par des minorités, je ne sais plus, je sais plus
de genre,
le terme exact.
Minorités de genre, voilà. En général, toutes les minorités de genre, dont les femmes.
D'accord, c'est ça.
Voilà, et oui, en fait, je précise, c'est un fonds qui finance des projets. On ne finance pas les studios, on finance des projets de jeux. Il faut que ces projets de jeu soient portés par des équipes dans lesquelles des femmes ou des minorités de genre ont des rôles clés. Donc, c'est pas dire que des équipes avec 100% de femmes. Sinon, on aurait mis la barre très haut et on aurait eu probablement 3 soumissions en 3 ans. Mais ça veut dire en moins que ce sont des femmes qui vont bénéficier du succès du jeu et porter leur voix à travers ces créations.
L'argent, c'est le nerf de la guerre, en fait. C'est que tu parlais de l'associatif, et c'était important en termes de lobbying. On reviendra aussi peut-être sur les actions, sur les types d'actions et leur efficacité, que ce soit dans l'industrie, dans la société, pour l'image et tout ça, il y en a de différents types. Mais il y a un moment, il faut du pognon pour faire des jeux.
C'était ma conclusion, hein, tu l'as très bien résumé. C'est qu'après 4-5 ans à faire du lobbying, de l'associatif, à implanter la graine de l'importance du changement qui est requis par l'industrie, et je pense qu'on a bien été entendu là-dessus avec Women Games. Et pour moi, il m'a semblé, enfin moi, j'avais envie de mettre plus de moyens et de taper plus fort, et je m'impatiente en fait. Quand je m'impatiente, j'essaie de faire autre chose, voir si ça marche mieux. Et donc j'ai créé ce fonds, donc on a levé 3 millions de dollars qui nous ont permis de financer. Aujourd'hui, on a financé 12 jeux, on est encore en train d'en chercher d'autres. Et c'est vrai qu'on s'est dit que c'était le moment d'approcher l'industrie différemment, c'est-à-dire de donner directement l'argent aux créatrices en bypassant toutes ces équipes de décision qu'on peut trouver chez des publishers ou chez des partenaires business qui n'auraient pas forcément le même niveau d'écoute que nous pour des équipes aussi diverses. Et le grand truc de Wings, c'est que ce sont les gens qui décident des projets, ce ne sont que des femmes et des minorités de genre qui vont du coup juger directement les projets sans intermédiaire, sans screening. Vous présentez votre démo, votre pitch, et c'est une équipe de femmes et de personnes de minorité de genre qui les regardent et qui donnent leur point de vue, et bim, c'est financé ou pas d'ailleurs, mais il n'y a pas 36 étapes de validation qui se terminent nécessairement.
Et en plus, t'as réuni autour de toi... peut-être un peu comme Women in Games, mais c'était quelque chose d'impressionnant, c'est que tu as réuni comme ça, quand on va sur le site de Wings, les comités consultatifs et les nanas qui sont là, et les minorités de genre aussi, qui vont décider... Enfin, tu as réuni une dream team autour de toi pour porter ces projets. Encore aujourd'hui, enfin, on voit sur le compte Twitter de Wings, il y a des nouvelles personnes qui reviennent, qui arrivent et qui rejoignent le projet. On sent que c'est aussi un axe qui est super important. C'est-à-dire, on est moins dans le lobbying, on est moins finalement dans les relations publiques. C'est pas forcément quelque chose qui est... Ça peut servir aussi de faire des conférences, de mettre en avant des créatrices. Mais il y a comme ça, le but c'est de quoi? C'est de créer aussi un écosystème économique de soutien, de networking, de choses comme ça autour du financement de ces projets-là.
Alors je précise que Wings, c'est une entreprise à but lucratif. Nous, notre plan, c'est que ça soit énorme, qu'on gagne un maximum de pognon pour pouvoir financer beaucoup plus de projets. Je précise parce que autant il peut y avoir des fonds caritatifs et ce n'est pas du tout notre cause. Nous, on est persuadés que c'est une femme qui va créer le prochain Minecraft, et on aura peut-être la chance d'arriver à voir qu'elle a Minecraft entre ses mains, parce qu'on va regarder à ses projets différemment, parce qu'on est une équipe différente des autres. Ça, c'est notre pari. Donc, je précise bien que c'est vraiment un objectif...
C'est intéressant, c'est capital même de le préciser.
C'est important, parce qu'il faudrait pas qu'on croie qu'on est une charité ou une fondation, je sais pas le mot en français, mais... voilà, donc on fait ça pour prouver que c'est le business model du futur, de donner la voix à des équipes diverses. Et je dirais même que Wings, les femmes et les minorités de genre, c'est notre première étape. Mais derrière, on aimerait que ce soit un succès et qu'on puisse appliquer cette même règle à beaucoup d'autres populations qui sont sous-représentées dans l'industrie du jeu vidéo. Donc c'est notre première étape. Donc ça c'est ce que je veux dire parce que ça me paraît super important. Donc l'écosystème qu'on vise, c'est d'avoir des énormes jeux indés qui sortent de, qui ont été financés par Wings. Et comme on est en plus pas publisher, pas éditeur, qu'on laisse les studios, on les aide à s'auto-éditer, que ces femmes, elles aient des studios qui vont être ultra viables, comme peut l'être Game Bakers pour nous, parce que elles sont pas dépendantes d'un éditeur, elles sont pas dépendantes de Microsoft, etc. Elles ont construit leur studio, elles récupèrent l'essentiel de leurs revenus et elles vont pouvoir continuer à travailler, à produire des créations en toute indépendance. Ça, c'est notre objectif. Et après, je voulais quand même dire effectivement que je suis super contente du board qu'on a réuni pour Wings parce que je suis effectivement allée chercher toutes les femmes à la tête de beaux studios indés qui avaient
fait clair.
Des beaux projets. Et c'était rien que ça, c'est une aventure géniale. Et il y a rien que d'avoir ce réseau, c'est très utile aussi pour les femmes qu'on onboard et qu'on soutient à travers Wings.
C'est des sujets qu'on va peut-être réaborder, mais il faut quand même aborder parce que tu n'as pas arrêté. C'est pas en 2016, c'est bon, maintenant j'aide la cause des femmes dans le jeu vidéo, tu le fais, mais pour autant tu n'arrêtes pas de créer, tu n'arrêtes pas de participer à la création de jeux vidéo, et il y a ce jeu qui est un ovni, enfin qui est un truc assez incroyable, qui est Haven. Ça vient d'où cette idée? J'ai vraiment envie qu'on reparle de ce que tu as dit, que c'était un pari peut-être plus risqué que Fury, qui était, qui est, bah, alors que Fury, on a l'impression qu'il y a, une grosse marche d'escalier à franchir pour rentrer dans le jeu, alors que Haven, c'est tout doux. C'est soft, on lance le jeu, on est pris, j'allais dire on est pris par la main parce que ça va bien avec le jeu, mais on est dans un cocon en fait dans Haven. Et d'où ça vient, quelle volonté à l'origine pour créer Haven?
Bah déjà, tu l'as bien expliqué, mais c'est vrai que nous, on a la volonté du contre-pied, de la surprise à Game Baker. C'est-à-dire que, évidemment, tout le monde voulait qu'on fasse Fury 2, mais non, on n'a pas fait Fury 2, à la fois parce que on pense que, déjà, la logique des jeux à IP avec des suites et un studio qui devient du coup à se répéter pendant 5 ans, 10 ans ou 20 ans, c'est pas notre truc. Mais c'est surtout parce qu'on pense que les joueurs, ils aiment qu'on les surprenne, ils aiment qu'on arrive avec des propositions nouvelles, et c'est quelque chose qui nous plaît bien aussi, nous, à terme d'équipe, d'aller explorer des genres, des messages différents. Donc, à partir du moment où on s'était dit ça, on s'est regardé, Aymeric et moi, et on s'est dit, je me souviens très clairement de cette conversation, on s'est dit, on va faire un jeu vidéo heureux, positif, qui va parler de l'amour au quotidien. Et alors, quand on s'est dit ça, on était tout contents et tout. Et puis après, on a commencé à regarder concrètement ce que ça voulait dire, à s'apercevoir de l'immensité du challenge que même la plupart des médias qui maîtrisent leur narration depuis des siècles n'y sont pas allés dans le quotidien, parce que le quotidien, c'est très facilement ennuyant. Donc quand on parle d'amour, on parle de crise, on parle de rupture, on parle de vengeance de la femme qui a été assassinée, on parle de dating, mais on parle jamais de se réveiller le matin en prenant un café avec quelqu'un de mal coiffé en face de soi, et pourtant de ce bonheur qui peut venir du quotidien. Donc c'est pour ça que je dis que Haven, c'était un pari mais créatif, mais à tous les niveaux. Et en plus, on s'est décidé à réinventer le JRPG en le simplifiant, en le rendant ultra accessible pour tout le monde. Et du coup, ça aussi, ça a été toute une aventure, parce que qu'est-ce qui nous a fait penser que les gens avaient envie de faire des JRPG simples avec des histoires d'amour heureuses? Et ben, c'était un double pari créatif, en fait.
Vous avez cette discussion, vous vous dites c'est une bonne idée, sauf que les bonnes idées, on sait ce que c'est des bonnes idées, ça reste des bonnes idées tant qu'on décide pas de se dire c'est une bonne idée et en plus on va la faire fonctionner. Il y a quand même il y a le fait d'avoir l'idée et il y a le fait de se dire ouais ok, donc le challenge semble insurmontable, c'est quoi, c'est vous aviez besoin de ça à ce moment-là, vous aviez besoin de ce genre de challenge pour garder, je sais pas, la motivation de faire bouger les choses ou
Non, moi je crois qu'on plus que le challenge, on vit avec l'espoir. On vit avec l'espoir que si, effectivement, oui, il y a des gens comme Aymeric et moi et d'autres qui ont envie d'un jeu comme ça et qui en fait ne demandent que ça. que pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'histoires d'amour en jeu vidéo? Voilà, c'était toutes ces questions. Nous, on s'est dit, bah c'est parce que personne l'a fait, on n'a qu'à y aller. On y va. Et donc, on y est allé, et ça a été vraiment difficile. Haven a été beaucoup plus difficile à faire que Fury. On a passé un an à chercher de la recette entre des jeux, un jeu extrêmement narratif, un jeu qui était très action. En plus, on savait pas vraiment combien on allait gagner d'argent avec Fury. Il y avait encore beaucoup d'inconnus, donc on était très prudents sur le budget, ce qui nous a aussi limité créativement. Voilà, et au final, on a trouvé la recette un an plus tard, quand on s'est aperçu qu'on pouvait avoir, voilà, qu'on avait nos deux persos en même temps, qui allaient drifter la volée au-dessus des plaines, et qu'on allait pouvoir construire une petite boucle narrative assez sympa avec le retour au nid tous les soirs, etc. Et à partir de là, bah, c'est une question juste d'essayer de concentrer l'expérience, d'avoir tous ces petits moments touchants, tous ces dialogues incroyables que Pierre Corbinet a écrit. Et puis, on avait déjà trouvé notre caractère designer depuis le début, qui a tout à fait compris ses premiers croquis. Ils étaient affichés dans notre bureau pendant 5 ans parce qu'il avait mis le doigt exactement sur un de ces moments du quotidien touchant d'une relation amoureuse. Voilà, donc après, il a juste fallu le finir, le concentrer et presser le bestiau pour qu'il en reste que le meilleur, avec des choses extraordinaires, que ce soit l'intro et l'outro fait par Takatsu, qui sont magnifiques, je pense, qui complètent complètement l'expérience du jeu, la musique des Danger et tout le reste.
Et comment ça se passe, la réception, du coup? Parce que c'est dur à faire. Est-ce que c'est... Du coup, ce qu'on j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est que c'est aussi dur à vendre.
Oui, c'est extrêmement dur à vendre. Et alors, on arrive en fin 2020 avec des indicateurs de buzz très, très élevés. Tu sais, les wishlists, les jeux les plus attendus, on était dans tous les shows, etc., etc. Donc nous, en plus, on avait une idée... disproportionné, hein, comme toujours en fin de prod, tu penses toujours que ton jeu c'est le meilleur du monde, et c'est très bien, et je pense que c'est d'ailleurs nécessaire pour la santé mentale des équipes de se dire qu'on a le meilleur truc du monde entre les mains. Et on arrive, et là, donc on s'attendait à en vendre vraiment beaucoup beaucoup, et au final on en a vendu beaucoup de Heaven, et il a gagné des prix et il a été extrêmement apprécié, mais on n'en a pas vendu autant qu'on pensait, ce qui est un peu notre histoire quotidienne, Aymeric et moi, à chaque jeu, hein, on se dit toujours qu'on tient un truc énorme, et en fait c'est juste un succès.
Et mais c'est
à mon avis, je pense que quelqu'un l'avait bien résumé comme ça: Heaven, c'est le jeu que tu wishlist parce que t'as envie de ça, t'as envie de te dire que oui, tu vas jouer à un jeu avec des amoureux, et que sur la planète là, avec les combats, ça a l'air sympa, ça a l'air pas trop stressant, je peux jouer avec ma copine et tout, mais au final c'est pas le jeu que t'achètes. C'est ça le problème de Heaven, c'est que tout le monde l'a wishlisté, et au final les gens l'ont pas tous acheté parce que ils avaient envie d'aller sur un truc qui était moins un ovni, moins une inconnue, voilà, avec un gameplay plus prononcé, s'ils aiment ce type de gameplay. Donc voilà, ça a été un petit peu l'aventure de Heaven, et c'est vrai que ça a été un des jeux les plus durs à vendre. En plus, on s'est pris 2 ans de Covid en plein dans le développement, ça n'a pas facilité les choses aussi. Mais bon, au final, c'est le jeu, il est profitable, il a gagné beaucoup de prix. On a énormément de gens qui sont très heureux. On a fait une très belle update derrière avec... on peut jouer.
J'allais en parler. Voilà. Cette update, est-ce qu'elle devait être, dans le jeu au départ? J'avais l'impression que... Je sais pas, j'avais l'impression que quand j'ai vu l'update... que c'était naturel, en fait, qu'elle avait sa place très naturellement dans Haven, en fait.
On a montré, hein, quelques croquis du concept de départ d'Haven. C'était l'amour, mais de 7 couples différents. Il y avait même l'amour frère-sœur qui était représenté, enfin 2 sœurs en l'occurrence. Il y avait des couples de toutes les orientations et de tous les genres possibles, et de toute forme d'origine ethnique aussi qu'on puisse imaginer dans notre univers cyber fantasy, donc quand même assez loin du réel. Et c'était ça, nous, notre objectif, c'était de raconter plein d'histoires d'amour de plein de couples différents. Au final, on n'a pas pu, on a coupé, on a réduit pour n'avoir que nos 2 héros. Et on s'est toujours dit qu'on arriverait bien à faire quelque chose, par exemple, ne serait-ce que parce que le thème de Heaven, c'est la liberté d'aimer qui l'on souhaite, dans un monde où... On ne sait pas exactement ce qui se passe sur leur planète, mais en tout cas, on sait que les relations amoureuses y sont extrêmement contrôlées. Donc, on s'est dit que c'était une update complètement naturelle de enfin pouvoir permettre à des gens de jouer deux hommes ou deux femmes. Et ça nous a coûté énormément d'argent et c'était une update gratuite. Et évidemment, on aurait voulu mettre plus de versions, plus de couples, plus de choix, mais c'était ce qu'on pouvait faire avec nos moyens pour réussir à livrer un niveau de qualité qui nous paraissait acceptable. Suffisamment élevé par rapport à nos standards.
Ah, quand je l'ai découvert, j'ai eu un grand sourire. J'ai trouvé que ça allait magnifiquement avec le jeu, en tout cas. C'était quelque chose de très naturel. Je ne l'ai pas dit en intro, mais le problème, c'est que si j'avais... Si on pourrait continuer encore longtemps cette conversation. J'ai envie quand même d'aborder quelques derniers sujets avec toi. Dans ta bio Twitter, tu as marqué « Changing the world soon », « Changer le monde très vite ». Bientôt. Est-ce que avec Wings, t'as fait Women in Games, t'as fait Wings, est-ce que ça va assez vite?
Non, ça y est. Ça va pas assez vite. Le soon, c'est plutôt un clin d'œil sur mon incapacité à propulser le changement aussi vite que j'aimerais qu'il advienne. Et je dis ça, mais je pense que je suis souvent très critique de mes accomplissements et Julie Chalmette, par exemple, la cofondatrice de Women in Games, qui est aussi une amie, me rappelle souvent à quel point ça a été important. Et j'écoutais d'ailleurs, dans mon temps libre, j'écoutais la présentation de l'industrie du jeu vidéo faite à la commission du ministre de la Culture il y a quelques jours, là, avec le CNJV, le CEL et toutes les questions de tous les différents intervenants. Et je me suis aperçue à quel point toutes ces questions sur la diversité, le genre... avoir des fonctionnements d'équipe équilibrés, une bonne maturité dans la gestion des équipes, pas de crunch, etc. Tout ça, ça avait été aussi amené sur le terrain par Women in Games et tous nos efforts, et à quel point maintenant l'industrie s'en est emparée, et c'est très bien, et c'est très nécessaire, et bien sûr, il y avait des gens qui étaient précurseurs, qui n'avaient pas besoin d'avoir Women in Games, mais il y en avait d'autres pour lesquels on a été le petit coup de pied au cul qui a permis de mettre les choses en route, quoi. Donc au final, le monde change. Le problème, c'est qu'il ne change pas assez vite. Et comme toujours, on aimerait une grande révolution féministe, mais elle n'est pas en passe d'arriver, je pense, cette année.
Et l'année prochaine, alors non, mais tout ça pour dire que, du coup, on a bien vu, ça ne va pas assez vite avec Women in Games. Enfin, ça va assez vite. Enfin, je ne veux pas donner l'impression de dire que ce n'est pas assez efficace, Women in Games. Women in Games, c'est sans doute une des associations les plus efficaces dans sa mission. C'est juste que même la meilleure des associations ne peut pas faire de miracle non plus. Donc voilà, je ne voulais pas du tout dire que Women in Games n'allait pas assez vite. Ce n'est pas du tout mon propos. Mais est-ce qu'il y a un moyen d'aller encore plus vite? Parce que c'est vrai que j'allais te poser la question, c'est quoi être une femme dans le jeu vidéo en 2022? C'est pas non plus super. Enfin, c'est pas... tout n'est pas réglé, loin de là, quoi.
Non, mais la question, c'est quoi être une femme en 2022? Et encore heureux, on est en France, je veux dire, mais il y a tellement de problèmes en général dans le monde et d'oppression contre les femmes... qu'on a un énorme chemin à parcourir. Donc moi, je sais pas quelle est la solution pour faire changer la société en général. Et je pense que c'est potentiellement via nos organes politiques qu'il faut tous qu'on se prenne en main et qu'on fasse des choix importants et qu'on n'hésite pas à s'investir pour changer la société, pas que dans les entreprises, pas que dans l'associatif, mais aussi dans les organes de gouvernance de nos pays. Donc c'est peut-être ça le chemin. En tout cas, je vois qu'il y a des actions qui sont prises, il y a des décisions qui sont prises, qui sont incontournables. Je veux dire, avoir la moitié des femmes au bord des entreprises du CAC 40, ou alors demander une parité dans tous les organes de décision, de justice. Enfin, il y a des choses qui sont faites qui font changer doucement la société. Et c'est sans doute à ce niveau-là que c'est le plus efficace, à mon avis. En ce moment, mais il y a toujours la beauté de l'associatif qui va aller bousculer les gens qui sont un peu trop installés, et ça, il faut aussi le garder et le défendre.
Juste, je voulais avoir ton point de vue sur aussi, parce que t'es, pour revenir au jeu vidéo lui-même, mais en créant The Game Baker en 2010, vous êtes aussi, avec Aymeric, vous êtes des précurseurs aujourd'hui dans l'industrie en France. Est-ce que... on a remarqué, dans Silence on joue, la rentrée, on a fait notre rentrée le 9 septembre, et je me suis rendu compte début octobre que, waouh, rien qu'en un mois, on avait parlé de Four Tales, on avait parlé de Tinikin, on avait parlé de Stray, on avait parlé de Steel Rising. Je me rappelle qu'à un moment, parce que ça fait 15 ans que Silence en Jeu existe, quand on faisait trop de français, on nous disait « mais vous avez un biais », etc. Moi, je me suis rendu presque après compte qu'on avait fait autant de jeux français, de studios indépendants. Qu'est-ce que tu penses de cet écosystème-là aujourd'hui en France ?
Oh, moi, je pense que ouais, c'est formidable. Effectivement, tu l'as dit, on a des productions superstars à des niveaux incroyables. Stress en est un très bon exemple, Montpellier aussi. Moi, je pense qu'on a un écosystème qui est très positif, très, très fort en France, ne serait-ce que par la qualité de nos formations, la qualité du soutien qu'on a à l'industrie à travers les aides, du CNC, le crédit d'impôt jeux vidéo, qui font une énorme différence hein, sur le territoire par rapport à l'international. Et puis, de toute façon, le jeu vidéo, c'est le loisir préféré des Français maintenant. Je sais plus combien, 75% des Français jouent, la moitié jouent régulièrement, la moitié sont des femmes. Donc c'est vraiment un changement de culture, de mentalité qui fait qu'à mon avis, cette explosion, elle va continuer. Tu vois toutes ces jeunes générations de développeurs, de game designers qui se lancent et qui montent leur studio, comme l'équipe de Stray, comme l'équipe de Tiny King, et qui n'ont pas forcément fait 10 ans avant chez Ubisoft, et qui se lancent et qui piment. D'un seul coup, leur talent trouve les financements. Il y a une vraie dynamique là du jeu indé, et c'est à la fois extrêmement rassurant et à la fois, évidemment, les effets de consolidation de l'industrie et le passage au modèle d'abonnement sont des vraies sources d'inquiétude. On a vu leur impact sur la musique. On n'a pas envie que ça nous arrive de la même façon dans le jeu vidéo. Donc, c'est un tournant.
Tu parles du Game Pass et de ce nouveau modèle économique. On a l'impression, vu de l'extérieur, mais tu vas peut-être me contredire, que en tout cas pour l'instant, pour les sommes qui sont mises en jeu pour avoir des exclus Game Pass ou des exclus Sony ou ce genre de choses, ça peut être aussi une source de financement pour la création indé. T'as l'air de sous-entendre qu'il y a quand même quelque chose d'autre.
Bah, c'est sûr que ça a contribué à cet essor dont tu parles là. Nous, Evan a eu le Game Pass, Fury a eu le PlayStation Plus de Sony, donc ça a contribué à financer nos prods. Et aujourd'hui, c'est un vrai bénéfice. Maintenant, il y a forcément un prix à payer à partir du moment où les joueurs vont s'abonner à Netflix, à Apple Arcade et à Game Pass, et que ça va être leur unique façon de consommer des contenus. On va y perdre énormément. C'est certain. Il n'y a pas d'issue. Et je crois que tant que l'industrie est dirigée par des gens qui sont des vraies personnes de l'industrie du jeu vidéo, qui ont un vrai respect pour les créateurs et les entreprises, on va y échapper, mais ça va pas durer longtemps, à mon avis. On se dirige vers un futur à la Spotify et à la Netflix. Et donc, on peut se réjouir hein, que Netflix va nous payer toutes nos prods, mais quelque part, on va y perdre notre liberté créative, notre indépendance, notre capacité à dire des choses que certains n'ont pas envie d'entendre, et ça, c'est extrêmement dangereux.
Mais en même temps, tant qu'il y a des gens comme toi qui, de toute façon, cherchent à quitter des grands studios pour fonder des petits studios qui fonctionnent, pas de raison que... Si, il faut quand même s'inquiéter, c'est...
Ouais, il faut absolument s'inquiéter de garder notre liberté créative et aussi de défendre nos valeurs républicaines en général à tous les niveaux, parce qu'on est attaqué. On pense que... Enfin, voilà, on progresse énormément sur plein de choses, mais on a aussi des gros... retour en arrière et coup de bâton tout autour de nous, que ce soit aux US ou ailleurs d'ailleurs, mais voilà, donc on n'est pas du tout à l'abri d'un coup de bâton qui viendra mettre à mal nos libertés, et voilà, il faut qu'on défende au moins notre liberté créative dans nos studios.
Juste pour prendre des nouvelles, parce que 2020 c'était il y a quelques années, vous faites quoi à Haven en ce moment ?
Game Bakers, ben nous on travaille sur.
Ouais, oui, pardon. À Game Bakers, pardon. Jeu, vous faites quoi, à Game Bakers
on travaille. Ben on a beaucoup mis à jour Haven et Fury. Tu sais, on a sorti une update de Fury avec un personnage alternatif de Rider, Onamusha. Et donc ça nous a bien occupé et on a commencé notre prochaine production et qui va sortir dans quelques années et qui va être à mon avis assez remarquable. En toute modestie, au moins remarquable. Voilà, ça c'est sûr.
Merci beaucoup, Audrey. J'avais encore, J'avais encore beaucoup de questions, mais parce que... bah voilà. Mais de toute façon, ce sera peut-être une occasion de refaire... De refaire une discussion, pourquoi pas, on trouvera peut-être une occasion quand tu auras lancé un nouveau truc, parce que peut-être que si tu fais ça régulièrement, tu vas encore nous surprendre et avoir une nouvelle initiative. Donc, merci beaucoup Audrey Le Prince, c'était un plaisir de te recevoir dans Silence on joue.
Merci à toi.